BFM Bourse, le club de la bourse.
Mabrouk Chetouane et Sébastien Corchia, ce soir, sont nos coéquipiers du club. On va mesurer, ce que le marché a dans le ventre et se demander si le marché price suffisamment le risque géopolitique désormais. Mabrouk Chetouane est responsable de la stratégie globale de marché pour Natixis IM. Bonsoir Mabrouk.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue Sébastien Corchia aussi nous accompagne, directeur général de Cogefib Gestion. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue également. Si vous cherchez des idées de valeur, on évoquait tout à l'heure avec Alice Labout, TSMC, tiens, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC, le groupe publiera la semaine prochaine ses résultats. Qu'en attendre? Quel avenir pour TSMC? On sait que Taïwan est au cœur aussi de ce conflit géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Si vous avez raté le direct à 16h20, le replay est disponible. Pour le retrouver, il suffit de télécharger l'application BFM Business et vous sélectionnez le replay de BFM Bourse. Est-ce que le marché est réaliste, là, Mabrouk? Alors, c'est vrai, on a un CAC 40 qui recule un petit peu sous les 8000 cet après-midi. 8000, voilà, c'était il y a une heure, là on est dessous, 7991. Mais c'est une baisse qui reste assez limitée. Est-ce que le marché price suffisamment le risque géopolitique au cours actuel ?
Le risque géopolitique, il a cette particularité d'être, entre guillemets, ce qu'on peut qualifier d'un risque de queue de distribution pour les techniciens. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelque chose qu'on ne sait pas, entre guillemets, valorisé, on ne sait pas à quel moment il va intervenir. C'est véritablement quelque chose d'extrêmement compliqué lorsque ça nous tombe dessus. Prends un exemple, la guerre en Ukraine, le marché se réveille avec effectivement une invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce genre d'événements, effectivement, sont encore une fois très très difficiles à prévoir. Et c'est pour ça que le marché, aujourd'hui, est en quelque sorte tiraillé entre plusieurs facteurs. Il y a ces facteurs négatifs, vous le citiez, donc le facteur politique qui aujourd'hui prend une dimension, on va dire, de plus en plus importante à travers différentes variables que vous avez citées, le prix du pétrole, le prix de l'or, qui monte et qui sont le reflet justement d'une tension possible et palpable. Et en même temps, vous avez, on le voyait durant le résumé qui a été fait, des résultats d'entreprise qui sont là aussi pour certaines très très bons, pour d'autres un peu plus décevants. Donc le marché aujourd'hui est en train de peser en quelque sorte qu'est-ce qui doit l'emporter entre les fondamentaux microéconomiques qui vont prendre le dessus finalement dans les jours à venir, puisqu'on va avoir donc la saison de publication des résultats, et ce risque politique qui deviendra effectivement problématique s'il devait se manifester, se concrétiser. Encore une fois, là on est dans la rumeur, dans effectivement les scénarios en quelque sorte d'une attaque imminente. Vous le disiez, c'est un conflit larvé, c'est-à-dire qu'on vit qu'il n'a jamais été direct, on n'a jamais eu de confrontation directe entre ces deux pays, mais néanmoins la probabilité existe, elle est non nulle, et le marché aujourd'hui fait, entre guillemets, fi, en tout cas le marché action fait fi de ce qui se passe. En revanche, le prix de l'or, le prix du pétrole réagissent, et j'aimerais juste apporter une petite précision sur le prix du pétrole. Il ne réagit pas seulement, enfin c'est pas aujourd'hui, enfin le prix du pétrole n'a pas seulement monté, n'a pas augmenté depuis seulement cette annonce, ou alors cette possible confrontation. Ça fait un petit bout de temps qu'il monte déjà. Il faut rappeler aussi certains fondamentaux qui sont à mon sens extrêmement importants. Vous avez l'offre, entre guillemets, l'offre de pétrole qui baisse. On avait les Américains qui parvenaient finalement à combler, entre guillemets, l'absence des Saoudiens. Là, aujourd'hui, les Américains ne peuvent plus. C'est-à-dire qu'en gros, la production de pétrole américain baisse. Et donc, in fine, face à une demande qui, bon an mal an, se tient, vous avez mécaniquement des tensions qui se manifestent assez fortement sur le prix du pétrole. Ce qui, bien sûr, n'aura échappé à personne. Ça relance, bien évidemment, la thématique de l'inflation. On le voit déjà aux États-Unis.
Mais du coup, vous relativisez cette hausse du pétrole en disant, voilà, il y a cette problématique effectivement d'offre-demande, hein, ça c'est la base. On aurait une véritable crainte du marché sur un conflit ouvert entre Iran et Israël. Le niveau serait beaucoup plus élevé.
On ne serait pas à ce niveau-là. Je rappelle juste, quand la manifestation du conflit, c'est-à-dire qu'en gros l'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu lieu, on était bien au-delà, effectivement, des $100 le baril. On a tutoyé les 120. Donc, encore une fois, si véritablement on avait un conflit très fort qui se manifestait, enfin une confrontation directe. Et j'aimerais juste rappeler encore une statistique. La production de pétrole en Iran, est marginale à l'échelle de la production mondiale. Alors, bien évidemment, ce n'est pas la production directe qui va être concernée, mais ça va être les conséquences, les effets en cascade, comment vont réagir les autres pays de producteurs de pétrole. Mais là, encore une fois, si on regarde juste les belligérants qui seraient potentiellement entre guillemets, impliqués dans une confrontation directe, là encore, on parle de 3% de la production mondiale, c'est-à-dire pas grand-chose.
Je vois d'autres lignes un peu de la tête, Sébastien. Votre regard à vous sur le pétrole qui monte, c'est vrai, bien sûr, $91, mais le record absolu du pétrole, il est beaucoup plus élevé que ça. On en est très très loin. Alors du coup, on peut se rassurer ou on doit quand même s'inquiéter pour l'inflation de cette hausse des cours du pétrole en se disant que non seulement ça monte en dollars, mais en plus en euros, c'est pire puisque l'euro recule face au dollar. Donc là, pour la zone euro, c'est quand même de plus en plus compliqué. Voilà. Cette hausse du pétrole en euros, elle est encore plus douloureuse.
Oui, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse avant de répondre. Si on devait baisser les taux en Europe avant les Américains, naturellement, ça ferait baisser encore plus l'euro, ce qui est le cas d'ailleurs là, et donc ça renchérirait les prix du pétrole, ce qui fait qu'à la pompe, le consommateur, il n'y verrait que du feu, ce serait même un peu l'inverse. Parenthèse fermée, non, pourquoi je tanguais un peu de la tête, parce que même si Mabrouk a raison sur le pourcentage effectivement de la place de l'Iran versus d'autres pays comme les États-Unis, le Venezuela ou plein d'autres gens comme ça qui ont des réserves très importantes, il n'empêche qu'il y a une zone géographique qui est importante, c'est le détroit d'Ormuz. Et par le détroit d'Ormuz passe quand même beaucoup plus de pétrole que le seul pétrole iranien, et que on se souvient dans les années 70-80, au moment où il y avait des tensions, même après, que le blocage du détroit d'Ormuz, zone hautement stratégique, pourrait propulser le pétrole à des niveaux bien plus hauts, sans compter le reste des biens et services, puisqu'on a déjà des problématiques en face avec la mer Rouge et les Houthis. Donc imaginez bien que cette zone, elle serait dans une un peu à feu et à sang de manière beaucoup plus large que la simple le simple Iran, sans compter que c'est la réplique amène la réplique, etc., etc. On va pas faire de la géopolitique ici, mais ce dossier, pour répondre à votre toute première question, j'ai l'impression que la bourse, les marchés l'ont superbement ignoré, en fait, en se disant quoi ? En se disant Israël économiquement aucun intérêt, à l'échelle mondiale. Hein. La Palestine, les territoires palestiniens, malheureusement, c'est une zone qui économiquement est pas productrice de biens. Donc le marché ne s'y est pas intéressé. Et là, il se réveille un peu avec la radio, entre guillemets, se pose la question. Alors des gens plus avertis ont commencé à se hedger, donc se couvrir il y a quelques semaines à travers le pétrole. Et c'était très clairement dit d'ailleurs que le pétrole était peut-être le meilleur hedge contre un problème. L'or aussi, mais l'or aussi, reflétait à mon sens plutôt les dettes qui partout dans le monde montent. Mais bon, ça peut marcher.
On va en parler de l'or dans un instant. Nouveau record.
Après, mais par contre, ce marché n'est pas prêt parce qu'il est au plus haut, parce que sa volatilité, qui est l'assurance, bah, personne n'en achète véritablement. À la rigueur, les gens continuent même d'en vendre. Donc, il pourrait être pris dans une. Alors, non pas un Black Swan, parce que Black Swan, on sait que quand ça arrive, c'est que personne n'en a parlé, mais il pourrait être pris quand même dans un petit effet de surprise, un moment où il est quand même cher.
Total Energy, c'est la plus forte hausse ce soir du CAC 40, c'est le bon plan, enfin pardon, hein, je suis désolé, mais d'un point de vue de l'investissement boursier, voilà, il y a un méga trend encore à venir sur cette thématique matières premières, pétrole, un groupe comme Total Energy, qu'est-ce qu'on se dit là-dessus si pour, pour les investisseurs qui cherchent des idées concrètes pour la suite, pour, dans le monde très incertain qu'on est en train de décrire, savoir comment le marché pourrait choisir ses gagnants et ses perdants, on va dire.
Je vais faire un peu mon vieux fondamentaliste, entre guillemets, mais si on considère que de toutes les manières, l'offre descend avec une production américaine qui baisse, une production effectivement saoudienne qui ne va pas remonter, que la demande, elle, ne va pas forcément plonger, parce que bon, bah, les États-Unis, on a discuté à plusieurs reprises sur ce plateau, ne vont pas connaître de récession, que ça va bien tourner, etc. Enfin, que la demande mondiale, finalement, reste là. Bon, bah, avec des tensions politiques par ailleurs, oui, le prix du pétrole ne va pas baisser, et à ces niveaux-là de prix du baril, vous avez donc des entreprises comme Total qui, bien évidemment, continueront d'avoir des bénéfices qui seront en augmentation. Donc, c'est salué par le marché, c'est tout simplement une valorisation de la situation actuelle sur les prix du pétrole.
Le marché manque-t-il d'un... En tout cas, il accélère, il fonce comme un bolide vers la clôture. Dernière ligne droite, le CAC perd 0,4% à l'approche de cette clôture sous les 8000 points, 7994. Total Energy, on le disait donc, profite en tout cas de cette situation, la hausse des cours du pétrole en tête du CAC, le titre. On a aussi Société Générale qui annonce de nouvelles sessions, cette fois au Maroc, pour plus de 700 millions d'euros. C'est la grande braderie en ce moment, la Société Générale qui multiplie les sessions. Le titre gagne 1,6%, puis en repli, Stellantis qui recule de 3,6%. Notez aux États-Unis, Apple fait mieux que le reste du marché, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. En fait, depuis hier, ce titre Apple surperforme. Hier, il a pris 4%. Aujourd'hui, il gagne 0,5%, alors que Wall Street recule. Parce que d'après Bloomberg, les prochains Mac intégreront beaucoup plus d'intelligence artificielle. Et les prochains produits d'Apple en général. Bah, ça, le marché l'achète, évidemment. Et Apple, qui souffrait depuis le début de l'année, là, retrouve un petit peu de surperformance. On va demander d'ailleurs à nos experts si Apple pourrait opérer un vrai comeback après un début d'année un petit peu décevant. Mabrouk Chetoine nous accompagne. Sébastien Corchia également l'once d'or. On n'en a pas parlé, messieurs. L'once d'or, 2440 $. Le CAC fait rien, là, aujourd'hui. Pas la peine de s'attarder sur le CAC 40. C'est sur les autres actifs qu'il se passe des choses. L'once d'or envoie des signaux. Pareil, c'est la situation géopolitique ou c'est plutôt le marché de la dette qui inquiète les investisseurs? C'est la Chine qui essaye peut-être de se dédollariser, qui achète de l'or? Comment est-ce qu'on interprète ce nouveau record, 2440 $? Mabrouk.
La diversification des réserves de change des banques centrales, c'est une vieille thématique qui revient régulièrement. Et donc, plusieurs banques centrales opèrent à ce mouvement, effectivement, d'achat d'or. Donc, c'est-à-dire la banque russe, effectivement, le fait de manière assez intensive. La banque centrale de la PBOC également, donc la banque centrale chinoise le fait également. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et puis encore une fois, le contexte sans doute, enfin les vieux réflexes reviennent en quelque sorte. Hein, on a toujours cette idée que l'or constitue une valeur refuge lorsqu'on a des tensions, un déficit de visibilité. Et on a encore une fois, je précise juste une chose, c'est que le prix de l'or augmente maintenant depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc c'est pas quelque chose, entre guillemets, de nouveau, ces tensions politiques qui se raffermissent et qui deviennent de plus en plus tangibles, aujourd'hui, n'expliquent pas à elles seules, entre guillemets, cette croissance du prix de l'or. Donc on a aujourd'hui, fondamentalement, un prix de l'or un actif qui est publicité par les investisseurs, tout simplement parce que moins de visibilité, et puis surtout, on a aussi ces banques centrales qui soufflent le chaud et le froid en quelque sorte, puisque on avait finalement au début d'année des banques centrales qui annonçaient qu'on allait peut-être avoir plusieurs baisses de taux, le marché qui s'était engouffré dans cette brèche.
On pensait qu'on allait vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Et puis finalement, il y aura peut-être beaucoup d'amour, mais un peu moins d'eau fraîche. En tout cas,
beaucoup d'amour en 2022 pour les porteurs obligataires, c'était pas trop d'amour. Hein. C'était
non, mais pour cette année, là. Bâton. On pensait que cette année, on vivrait d'amour et d'eau fraîche. Les taux commenceraient à baisser. Non, on vivra d'amour, évidemment. On vit que d'amour, tous. Mais il y aura moins de baisses de taux qu'attendu.
Je vais paraphraser mon ami Florian. Effectivement, le marché fait un peu une crise d'adolescence, en quelque sorte, puisque quelque part, finalement, on avait 6 baisses de taux anticipées cette année. Donc pour le marché. Donc là, on revient à 3. On est revenu finalement à 3. Là, finalement, les 3 se transforment en moins de 3. Donc,
moins de 2 même pour la fin.
Moins de 2 pour effectivement, quand on regarde certaines statistiques, enfin, quand on regarde effectivement les anticipations de marché,
c'est
ça bouge effectivement beaucoup au gré des stats macroéconomiques. Mais néanmoins, donc tout ce cosmos-là, finalement, de déficit de visibilité, d'un changement peut-être radical finalement sur la politique monétaire américaine, dont il ne faut pas oublier que ce que j'appelle la force gravitationnelle en fait des marchés américains va quand même poser beaucoup de problèmes finalement à la BCE par ailleurs. Et globalement, soit la BCE doit en faire beaucoup plus pour pouvoir effectivement contrer l'augmentation possible des taux, entre guillemets, longs américains qui va contaminer finalement les taux longs européens, ou alors finalement la BCE va devoir effectivement renoncer elle aussi puisque les conditions ne le favorisent pas.
Oui. Combien de baisses de taux cette année de la Fed? Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'y en aura peut-être même pas deux, moins de deux, Sébastien, désormais?
Alors, je vais juste vous répondre à un truc sur l'or quand même qui est intéressant, c'est qui, si vous me permettez, qui achète l'or? Les banques centrales, pas les investisseurs, parce que quand vous regardez les ETF sur l'or, ça baisse. En fait, les gens qui faisaient de l'ETF sur l'or font de l'ETF sur le Bitcoin. Donc, c'est pas trop les particuliers. Par contre, ce sont les particuliers chinois qui n'achètent pas leurs actions, qui se sont fait rincer sur leur immobilier et qui se réfugient sur l'or. C'est une grosse demande et la demande très forte de la Chine. Comme par hasard, avant que l'Ukraine, il y ait le conflit russo-ukrainien, la Russie avait fait un énorme stock d'or. C'est aussi une protection contre une menace de rétorsion américaine. C'est aussi parce qu'ils ont une vraie volonté d'avoir une monnaie, c'est ce qui leur manque pour devenir une superpuissance, une monnaie à échelle mondiale, et il faut qu'il y ait des réserves, et si possible en or. Parenthèse fermée, pour qu'il y ait les baisses de taux américaines.
Combien? Vous en voyez combien?
J'ai jamais cru aux 6-7. Je croyais même que c'était un fantasme des marchés. Une crise d'adolescence, j'aime beaucoup l'expression, effectivement, mais elle était très bonne.
C'est vrai que l'idée, c'est que le marché, en variant, en ajustant aussi violemment ses anticipations de baisse de taux,
d'ailleurs, il a masqué
son erreur, en train de péter un câble, en quelque sorte. C'est une crise d'adolescence dans le sens où le marché fait du grand n'importe quoi dans ses anticipations.
Oui, il a fait du grand n'importe quoi, et puis pour cacher son erreur d'anticipation, il a acheté massivement des valeurs de techno en disant, on regarde plus la macro, on regarde que les micros, puis pendant ce temps-là, il a corrigé ses anticipations. Mais ses anticipations, aujourd'hui, elles sont à l'inverse, puisque quand vous regardez les Fed Funds, maintenant, les Fed Funds traduisent à hauteur que 15% des investisseurs penseraient qu'il n'y aurait plus du tout de baisse des taux. 15%, c'est pas beaucoup, mais c'est en même temps beaucoup par rapport où on était il y a longtemps. Donc, est-ce que ça sera 2? 2 me paraît être un chiffre pas mal en Europe. 2 fois 0,25, histoire de dire, un peu comme dit Villeroy de Gallo, il faut faire quelque chose pour pas être dans l'excès, sans non plus prendre un virage où il faudrait retourner si d'aventure l'inflation montait. Donc, 2 en Europe, c'est pas mal. 2 aux États-Unis, ça va être très très serré. Je pense qu'ils ont raté un coche qu'ils avaient peut-être pour en faire une au mois de mars-avril. Ils l'ont raté. Ils sont coincés avec les élections. Ils sont coincés avec plein de choses. Et alors, il faudrait pas qu'il y ait un événement géopolitique. Peut-être ça rabattra les cartes. Mais avec cette énergie qui repart, ce pétrole qui repart, ça va être extrêmement compliqué. Je pense que normalement, ils le font jamais avant les élections, mais pour le coup, Monsieur Powell, il est légèrement conflicté quand même pour ses élections. C'est un peu son poste aussi qui va jouer. Donc, il va peut-être vouloir quand même aider un peu le candidat démocrate à avoir des voix, quoi.
Bienheureux celui qui sait, qui voit, qui entrevoit le chemin monétaire à venir. Surtout celui de la Fed, pour le coup, celui de la BCE est peut-être un peu plus clair. Et la BCE devrait sans doute. Non, ça, pas vous. Vous avez l'air de pas être dedans. C'est pas très clair pour la BCE non plus, Mabrouk.
C'est pas si clair que ça, hein, honnêtement.
Mois de juin, il semble que l'hypothèse est montée en puissance après la conférence d'hier, non ?
Enfin, la conférence d'hier, globalement, elle n'a rien dit. Hein. Donc ça, faut être clair. C'était quand même d'un ennui quand même assez mortifère. Et globalement, finalement, elle n'a pas insisté. Enfin, elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de calendrier, etc., sur les baisses de taux. Mais encore une fois, si la BCE venait à baisser ses taux d'intérêt directeurs en amont, finalement, de ce que pourrait faire la Fed, ça a été très bien dit, on aurait une réaction du change qui serait immédiate, qui est déjà en train de plonger en quelque sorte et qui renchérirait par ailleurs dans un contexte de prix du pétrole qui augmente, l'inflation importée. Et donc c'est évidemment ce que veut éviter la BCE. Mais pas de chance, effectivement, ça joue pas dans son sens. Donc, et même si la BCE ne dira jamais effectivement que le change constitue effectivement un outil de politique monétaire et un objectif, elle est néanmoins contraint de regarder ce point-là. Et enfin, je veux dire, juste attention sur un point.
Il y a Étienne Mabrouk qui vous écoute depuis la tour Euronext et qui adore, il vous trouve super cash ce soir. Il dit, il est top. Voilà.
Ah bon?
Oui, voilà. Non, mais. On le retrouvera dans un instant, Étienne.
D'accord, très bien. Mais le point, par ailleurs, c'est que je l'avais dit sur ce plateau, notamment lors de la dernière data room que j'ai fait, auquel j'ai participé. On a quand même des augmentations de salaires qui vont avoir lieu ou qui ont déjà lieu finalement en Europe. Et la difficulté qu'on va avoir, c'est de dire, est-ce que les entreprises vont absorber ces augmentations de salaire ou est-ce qu'elles vont répercuter finalement ces augmentations dans les prix?
Oui.
Aujourd'hui, on ne sait pas. D'après Christine Lagarde, encore une fois, elle fait l'hypothèse, c'est l'hypothèse effectivement du board de la BCE, que ces augmentations de prix seront absorbées dans les marges des entreprises. J'ai beaucoup de mal à souscrire encore une fois à cette hypothèse. Et globalement, je ne serais pas surpris de voir l'inflation repartir comme aux États-Unis.
17h26, Votre plus grand fan nous appelle depuis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Il nous écoute attentivement, Étienne Brack. Eh oui, il est cash, effectivement, Mabrouk, Étienne. Ça, vous aimez, Étienne, hein, quand nos intervenants sont cash, et c'est effectivement le cas ce soir dans ce club.
En fait, Mabrouk est le seul intervenant depuis hier qui dit tout haut ce que pense tout le monde tout bas. Donc voilà, ça me fait plaisir d'entendre qu'en effet, on a... Bah, par rapport au fait que Christine Lagarde n'a rien dit hier et que cette réunion était...
Je tiens juste à apporter une précision.
En tout cas, on a un CAC 40
Habituellement, je prends sa défense puisque tout le monde lui tombe dessus. Mais là, cette fois-ci, je dois reconnaître que c'était quand même un petit peu ennuyeux.
C'est joliment dit. Étienne. Oui, on l'a tous pensé, c'est vrai, c'était un peu ennuyeux. Mais on l'a vécu intensément, l'ennui était profond. Allez, dans un instant, la clôture. Ce sera dans 8 minutes, cette clôture des marchés. Étienne, comment ça se présente pour le CAC ce soir?
Bah écoutez, vous avez une nouvelle séance de consolidation à la Bourse de Paris, mais néanmoins, franchement, au vu du contexte et au vu de tout ce dont vous parlez depuis plus de 20 minutes, moins 0,3%, ça va, c'est pas catastrophique. 7 996 points pour l'indice parisien, qui peut dire merci à Total Energy qui gagne 1,9% grâce au cours du pétrole qui gagne 2%, 91$ sur des plus hauts de novembre dernier. L'euro qui est toujours aussi faible, hein, 1,0640 face au dollar, l'obligataire qui continue de se détendre. Et puis, à noter, un marché qui est un petit peu prudent avant les résultats du luxe. Hein, la semaine prochaine, ça sera peut-être le rebond ou peut-être eh bien, des résultats qui vont enfoncer le clou, mais LVMH perd 1,5%, 778€. Mercredi, vous allez avoir ASML qui va publier ses résultats. Là aussi, c'est une très grosse pondération du Stoxx 50. Et puis ensuite, jeudi, L'Oréal. Donc, soyez bien prêts la semaine prochaine avec les résultats d'entreprise. Soit ça va accélérer à la baisse la tendance ou soit ça sera peut-être le rebond pour terminer au-delà des 8000 points. 7998 à l'instant.
Effectivement. Alors, les publications, ça va être le coup d'envoi et ça a démarré aujourd'hui aux États-Unis. C'est une question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse. Vous pouvez vous y abonner. Notre fil LinkedIn. À vos yeux, les entreprises à l'occasion des publications là vont-elles briller? Brilleront-elles autant que lors des publications précédentes? Oui ou non? Vous êtes nombreux à répondre. Nous laissez vos arguments en commentaire sur nos différents réseaux sociaux. Oui ou non, Sébastien? Rapidement, est-ce que les entreprises vont parvenir à surprendre aussi agréablement que les trimestres précédents là?
Alors, je reprendrai ce qu'a dit Étienne et qui est juste, c'est-à-dire qu'il y a des publications qui sont plus importantes que d'autres, parce qu'il y a toujours des publications qui brillent et d'autres qui ne brillent pas. Pour le coup, celles des gros poids sont importantes et celles du luxe, parce qu'on a eu quand même des messages qui ont été envoyés par LVMH ou d'autres en disant attention, attention, cette tendance qui était quasi continue de croissance très forte, c'est peut-être derrière nous. Ces messages sont passés dans le marché, on le voit avec des titres qui ont un petit peu plus de mal. Et vous avez d'ailleurs des titres même qui ont beaucoup baissé. Je pense à Kering, mais je pense à Hugo Boss, ou c'est à 2-3 titres aux États-Unis, ou même de luxe aussi. Donc on sent que c'est un thème qui commence à être un peu vraiment usé, mais vu les poids dans les indices, et notamment de LVMH, il peut y avoir de l'arbitrage. Alors justement, vous disiez l'intérêt de Total, c'est aussi peut-être que c'est intéressant de connaître cette géographie des indices et de se rappeler que si LVMH est le plus gros poids de l'indice, celui qui est juste derrière, c'est Total, et que les gens n'en avaient pas beaucoup parce que c'était beaucoup moins sexy d'acheter de l'essence que d'acheter un sac à main. Et pour le coup, ils arbitrent un peu les sacs à main pour naissance, quand on va le dire comme ça.
Donc, quand vous êtes parisien,
de pondération. Vous voyez ce que
quand vous êtes parisien, c'est encore moins.